Les podcasts
de Blast.
Ça y est, les hommes d'aujourd'hui, et particulièrement les pères, sont de grands féministes.
Dans sa journée, Anthony n'a aucun moment à lui. Mais à trop vouloir bien faire et à ne jamais s'amuser, il risque l'asphyxie.
On les appelle papa poule, super papa ou nouveau père. À leur côté, les femmes sentent la différence.
Un papa qui s'applique, qui gère le quotidien, qui s'occupe des enfants le soir, qui fait les devoirs, qui fait les bains, tout ça.
Fini la figure paternelle qu'on ne voit jamais parce qu'il travaille et qu'il ne se pointe que pour gronder les enfants.
You are a spoiled, rotten little brat, and I'll tell you right now, I hate you back, you little shit. L'époque
où les femmes étaient accablées par la charge domestique et parentale, sans aucune aide, est révolue. Désormais, le nouveau père est enfin investi. On le voit donner le biberon, déposer les petits à la crèche et assister à la réunion parents-prof. Sur les réseaux sociaux ou dans les médias, ils sont légion. On célèbre ces pères qui s'occupent de leurs enfants. On se réjouit de les voir aux sorties d'école, signe que l'égalité est enfin advenue. Enfin ça, c'est ce qu'on se raconte. Car ce mythe du nouveau père est en grande partie un mythe. Une arnaque même qui empêche de dénoncer les inégalités bien persistantes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les journalistes Guillaume Dodin et Stéphane Jourdain qui ont enquêté sur ces nouveaux pères. En France, en 1986, les femmes géraient 80% des activités parentales liées aux enfants. 25 ans plus tard, elles en géraient encore 71%. Sur Doctolib, en 2023, 85% des rendez-vous des enfants sont pris par les mères. La proportion d'hommes qui prend leur congé paternité n'a quasiment pas augmenté lors de la dernière décennie et l'essentiel des tâches domestiques est toujours effectuée par des femmes. Le résultat de leur enquête est accablant. Le constat est sans appel. S'il y a effectivement eu des progrès, nous sommes encore loin, très loin, de l'égalité. Alors au lieu de célébrer à l'infini les hommes qui accomplissent des tâches, il est temps de rappeler les chiffres, les statistiques, les enquêtes sociologiques, pour essayer de répondre le plus objectivement possible à ces questions. Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis les années 80 ? Comment remédier à ces inégalités ? Qu'est-ce qui a fonctionné dans les pays qui s'approchent le plus de l'égalité ? Que peuvent les hommes qui nous regardent pour participer à leur échelle à l'avènement d'une société plus égalitaire où les hommes et les femmes porteront enfin la même responsabilité dans la parentalité ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Guillaume Dodin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste en charge des enquêtes judiciaires à l'AFP et à vos côtés, Stéphane Jourdain, bonjour.
Salut.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef numérique à France Inter et je vous avais déjà reçu tous les deux sur le plateau de Blast pour parler de votre première bande dessinée, une enquête en bande dessinée sur la contraception masculine qui s'appelait Les Contraceptés, qui a été un grand succès de librairie, qui visiblement a parlé à beaucoup de monde. Et aujourd'hui, vous revenez avec un nouveau sujet qui concerne là encore les inégalités femmes-hommes. Ça s'appelle L'Arnaque des Nouveaux Pères. C'est aussi une bande dessinée. C'est illustré par Antoine Grimet. Et vous revenez sur la répartition de la charge entre les femmes et les hommes, les inégalités qui subsistent au sein du couple, des couples qui ont des enfants, et de ce rôle que peuvent se donner un peu certains pères, d'être des pères modernes, c'est bon, on a l'impression que tout est acquis, que les hommes prennent vraiment en charge la moitié du rôle de parentalité, et vous montrez que ce n'est pas le cas, et vous expliquez aussi qu'il y a des solutions à ça. Alors avant toute chose, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre après les contraceptés? Pourquoi ce sujet?
De mon côté, je pense que c'est venu pas mal des témoignages de mères que j'ai eus autour de moi depuis la publication des contraceptés. En fait, on a beaucoup parlé, et on a beaucoup parlé de leur burn-out maternel pour beaucoup. Elles se rendent compte que elles sont devenues mères, elles ont l'impression qu'on leur a dit depuis longtemps que les pères allaient être au niveau, que ça allait être égalitaire, et puis elles se rendent compte que la réalité de leur quotidien, c'est que elles ont plus de choses à gérer, elles ont une vie professionnelle parfois épanouie, mais elles ont aussi une vie domestique intense, elles ont la charge mentale entre les mains, elles en ont souvent marre, et on a voulu faire écho un peu à ça dans la BD. Il y avait aussi d'autres choses qui rentraient en compte. C'est tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la culture populaire depuis 20, 30, 40 ans, sur les pères qui sont présentés comme égalitaires, investis au même niveau que les mères. Souvent, on a voulu interroger ce constat en tant que journaliste.
Et moi, en tant que journaliste, ça m'intéresse toujours beaucoup quand, collectivement, des êtres humains se racontent une histoire. Donc, sur la contraception masculine, il y avait cette idée que les hommes font comme si ça n'existait pas, la charge contraceptive, et que y a cette espèce de tabou qu'on regarde pas et surtout on n'ouvre pas la boîte à Pandore. Et là, on s'est dit que est-ce que il y a pas des pères qui se racontent un peu collectivement une histoire, qui se voient un peu plus beaux qu'ils ne le sont.
C'était... Y compris vous-même.
Y compris nous-mêmes et surtout moi-même. Et les premières stats qu'on a vues, les premiers témoignages corroboraient complètement ce premier ressenti. Et donc, on s'est dit, on y va.
Moi, je trouve ça justement quand même assez éloquent que vous commenciez par vos expériences, parce que vous êtes tous les deux papas, et vous vous interrogez un peu sur mais est-ce qu'on est ces pères modernes qu'on prétend être ? Vous êtes...
En fait, on pouvait pas faire autrement, parce que pour nous, ça n'avait pas de sens d'être donneur de leçons ou de parler des autres sans parler de nous. Moi, je veux dire, ce nouveau père et cette arnaque, c'est moi, clairement. Donc, ça part de moi, ça part de nous, ça finit sur nous, parce que l'idée, c'est de mener cette introspection et de regarder en nous quels sont les ressorts qui nous amènent à rester des hommes patriarcaux, même si on a une réflexion, même si on fait attention à ce qu'on fait, etc.
Parce que vous êtes quand même les auteurs d'une bande dessinée assez avant-gardiste sur la contraception masculine, à dire, regardez, nous, on pense cette question-là. Et dès le début de la BD, on se rend compte que même vous, qui avez fait ces lectures, qui essayez du mieux que vous pouvez d'être le plus égalitaire possible, eh bien, vous ne l'êtes en réalité pas.
Mais on veut être honnête en faisant ça, en se mettant en scène. C'est aussi pour ça qu'on a fait intervenir nos propres pères et nos propres compagnes qui viennent
dans le livre,
dans le livre, qui viennent dresser un tableau de là où on en est, qui est pas un tableau plein de fleurs. Voilà, il y a des choses qui peuvent être encore améliorées. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que aussi, basiquement, c'est nécessaire pour l'identification du lecteur homme. On espère qu'il y en aura un maximum, pas que des femmes. Merci à elles d'acheter la BD. Mais ce qu'on veut, c'est interpeller les pères sur cette question. Là, comme nous, on a été interpellés par ce travail. Et en discutant avec nos compagnes, en discutant avec des femmes autour de nous, on voit que les hommes, souvent, les pères hétéros, ont une image bien meilleure de leur propre travail, de leur propre engagement dans leur couple, dans leur famille, que la réalité de ce qu'ils font. Et c'est le meilleur moyen de le raconter, je pense, c'est d'être, de se regarder soi-même et de voir ce qu'il en est.
Et c'est arrivé souvent qu'on fasse des entretiens avec des hommes, des mecs qui commencent en disant « Bon, moi, c'est pas 50-50, je dois être à 60-40. » Et en fait, une heure après, en fin d'interview, ils étaient plutôt en mode « Bon, ça doit être plutôt 70-30 ou 80-20. » Et en fait, peu importe, nous, on n'est pas là pour juger la répartition des tâches, on n'est pas là pour que ce soit 50-50. Chaque couple a son ressort, chaque couple a ses spécialisations. Mais la question, c'est est-ce qu'on se raconte une histoire et est-ce que du coup, il y a quelqu'un qui est lésé dans le couple ? Et il apparaît que, manifestement, c'est le cas.
En tout cas, les statistiques sont assez claires sur le sujet, puisque c'est une enquête journalistique. Ça part de votre expérience, mais après, vous objectivez ça quand même avec des faits, des chiffres institutionnels, des études sociologiques sur le sujet. Et ça commence fort, puisqu'on comprend que déjà, dans la dernière étude, déjà, on a peu d'études, en fait, sur le sujet.
Ça, c'est un vrai sujet, déjà.
Sur la question de la répartition de la charge parentale. Et les études qu'on a nous montrent que, clairement, les hommes géreraient en France 29% des activités qui sont consacrées aux enfants. L'INSEE dit même que plus les hommes ont d'enfants, moins ils se consacrent aux tâches domestiques.
Ça, c'est complètement fou, quand même.
Le moment de leur vie où les hommes ont le plus d'activités en termes de tâches domestiques, c'est le moment où ils sont célibataires. S'ils rentrent en couple hétéro, et a fortiori, s'il y a des enfants derrière, eh ben, ils en font moins.
Et plus il y a d'enfants, moins ils en font.
Voilà. Et donc, ça, mécaniquement, on se dit, c'est parce qu'on se décharge de ça sur une femme, ça peut être sa compagne, ça peut être une personne souvent racisée qui fait le ménage, qui s'occupe des enfants à la maison. Enfin, c'est dingue parce que dans le même temps, la femme, la mère, elle en fait plus. Donc
ça, c'est ce que décrivaient déjà Lucille Quillet et Tiffany Cooper qu'on a reçu récemment à Blast, cette inégalité de répartition de la charge domestique, en réalité, des tâches domestiques. Et alors vous allez plus loin dans les stratégies que développent les hommes. Et je trouve cette planche vraiment... Je pense qu'elle va parler à beaucoup de femmes, on la mettrait à l'écran, où vous décrivez les 6 grands profils des hommes. Quelles sont les stratégies qu'ils adoptent, consciemment ou non, pour ne en faire beaucoup moins ? Alors, il y a l'aidant, donc celui qui dit « oui, je vais t'aider, je vais faire ça », mais en réalité...
Qu'est-ce que je peux faire ?
Voilà.
Une fois que c'est fini.
Il y a le partageur, je fais la vaisselle un jour sur deux, qui compte vraiment tout, mais en réalité, bien sûr, ça se fait au détriment de la femme et de tout ce qui ne peut pas être compté. Il y a le fainéant qui juste en fait beaucoup moins et qui l'assume. Il y a l'élogieux, oh, tu fais ça si bien, ma chérie, c'est superbe, et comme ça, ça le dédouane aussi de faire quelque chose qui ferait moins bien selon ce qu'il dit. Il y a le brouillon, celui-là, on le connaît bien, celui-là, le brouillon.
Ouais.
C'est le ça va.
T'es maniaque. T'es maniaque. Tu n'es pas à la hauteur. Enfin, tu es trop.
Détends-toi, ma chérie.
Le détends-toi, ma chérie. Ça va aller. Alors qu'en réalité, les standards, voilà, sont beaucoup plus bas chez ces hommes-là. Et puis il y a l'autruche qui fait semblant de pas avoir vu ce qu'il y avait à faire. Je me permets de vraiment décrire cette planche parce que ça fait écho à beaucoup de femmes, je pense. Est-ce que vous êtes reconnue dans un de ces profils ou plusieurs?
Moi, dans les six. Ah bon? Dépend des moments de la vie et les moments de la journée. Mais oui, bah, je pense qu'il y a un peu de ça, il y a un peu de ça dans les six. Après, ça n'empêche pas d'être autre chose. Moi, sur le linge, parlons de notre intimité réelle. Sur le linge, je suis un maniaque, donc je préfère quand c'est moi qui le fais que ma meuf, parce qu'elle fait ça moins bien et que 30 degrés ou 40 degrés, c'est pas la même chose. Donc voilà, il y a heureusement une complexité en tout être. Mais ces ressorts-là, je pense, enfin, en tout cas, si je regarde mes potes pour pas parler de moi, ils existent dans pas mal d'hommes quand même.
Et moi, je m'y suis reconnu aussi, notamment lorsque ma fille est née, donc il y a quelques années déjà, elle a 5 ans, mais sur des choses que, voilà, j'avais pas les mêmes standards que ma copine, et j'étais en mode, c'est pas, t'en demandes trop, on n'a pas besoin d'aller aussi loin là-dedans, alors que c'était des trucs basiques, d'organisation de la maison, de gestion des enfants, qui nécessitent d'être au niveau. Ces stratégies, c'est des stratégies d'évitement. Il y a aussi des mecs, il y en a, on nous en parle, qui sont au niveau. Mais ce que la chercheuse Francine Deutsch, elle a documenté, qu'on a reproduit dans la BD, c'est toutes les manières qu'ont les mecs de, quand ils n'ont pas envie de faire, de se défausser. Et bah, ils se défaussent à chaque fois sur des femmes, parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, ça sera fait par quelqu'un, par la compagne. Parce qu'ils ont, il y a toujours cette idée forte du patriarcat que quand on est un mec, souvent, on peut laisser les choses se faire parce qu'il y aura toujours quelqu'un en secours derrière, pour venir compléter, rattraper et assurer les choses.
Dans votre couple, qui gère l'administratif?
C'est toi, Valérie.
Qui gère les rendez-vous chez le médecin?
Pour les enfants, c'est plus Valérie. Mais
et pour toi? Oui. Et oui, les rendez-vous pour toi aussi, qu'est-ce qu'il les gère?
C'est toi.
Et les vacances? Qui pense à organiser les vacances?
Madame.
Surtout, cette situation, elle est encore d'actualité. Et c'est ça qu'il faut préciser, parce qu'il y a des chiffres que vous citez qui sont très, très récents. Et alors là, on a parlé des charges beaucoup domestiques, des tâches domestiques qu'on a aussi quand on n'a pas d'enfants, qui, bien sûr, augmentent quand on a des enfants. Mais il y a aussi cette charge parentale qui consiste à s'occuper très concrètement de l'enfant, des enfants. Et là, par exemple, en 2022, près de 8 mères sur 10 disent se lever plus souvent que leur conjoint si le bébé pleure. C'est moitié moins pour les hommes. Donc, en fait, il y a une conscience même généralisée du fait que c'est aux femmes de se lever. Ça continue avec l'âge. Sur Doctolib, par exemple, 83% des rendez-vous des enfants sont pris par les mères. Donc, qu'est-ce qui fait que cette charge qui consiste à s'occuper vraiment de l'enfant continue, là encore, à être portée par les femmes? Parce que ça se voit, ça se quantifie quand même très facilement.
Oui, bah alors, sur les 83%, c'est un chiffre qui est hyper important parce que, justement, on lui a donné une exposition. Enfin, Doctolib a donné une exposition à ce chiffre en le révélant, mais sinon, c'est pas quelque chose qui se voit, justement, parce que c'est un travail de l'ombre quand les mères appelle un pédiatre pour prendre rendez-vous, c'est quelque chose qu'ils ne voient pas. Et c'est justement parce qu'ils ne voient pas que les pères ne le font pas. C'est-à-dire que les pères sont beaucoup améliorés sur ce qu'ils se voient. Donner un biberon, changer une couche parce que vous avez une rétribution par le gamin qui est content que vous l'ayez fait, etc. Mais par contre, sur toutes les tâches qui ne se voient pas, par exemple, préparer les vêtements pour le gamin pour l'école le lendemain soir, où là, c'est très, très féminin, enfin, dans la répartition des tâches, ça se voit pas beaucoup, prendre rendez-vous chez le pédiatre, etc., etc. Donc, les hommes en font plus quand c'est valorisé socialement.
Et que ça crée du lien, ce que vous expliquez. Oui, c'est vraiment les endroits où...
Valorisé socialement par la société ou par le gamin. Par le regard du gamin.
C'est là où il y a les faux semblants, en fait. C'est que les mecs sont de plus en plus convaincus, je pense, on l'a été nous-mêmes, que ils sont au niveau parce qu'ils en font plus que leur propre père et parce qu'ils ont l'impression de faire toutes ces tâches qui sont assez valorisées. Celles qu'on voit pas, celles qui demandent de l'anticipation, de réfléchir au long terme, elles restent majoritairement entre les mains des mères. Et ça a du mal à bouger quand même, fondamentalement.
Alors, on va parler de ce qui pourrait bouger, justement. Un des grands vecteurs de l'installation de ces inégalités, c'est le congé paternité, qui, on le rappelle, est quand même déjà beaucoup plus court que le congé maternité, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, on va y revenir. En France, ça n'a quasiment pas augmenté le nombre d'hommes qui prennent leur congé paternité ces dernières années. Entre 2013 et 2021, on est toujours autour de 30% d'hommes qui ne prennent pas ce congé paternité. Comment est-ce que ça se fait que dans une société où on est censé être en progrès féministe, ça ne bouge pas sur quelque chose d'aussi important que ce congé-là? C'est des raisons financières, c'est institutionnel ou c'est individuel?
Bah, il faut pas oublier que il y a 20 ans, enfin 22 ans, il y avait le congé pater, c'était 3 jours. Donc moi, je suis devenu homme et j'ai commencé à travailler en CDI, etc. À un moment où la norme, c'était 3 jours. Donc c'est le Moyen Âge. Donc vraiment, la législation a bougé. Pas assez, mais elle a bougé assez rapidement et il n'y a pas si longtemps, c'était quasiment rien. Donc je pense qu'on a grandi dans un truc où la norme, c'est que le père, il prenne rien ou juste 2-3 jours quand la maman est à la maternité, on rentre chez soi et hop, le père, eh ben, on retourne au boulot.
Il y a une question du caractère obligatoire, en fait. C'est qu'à partir du moment où on ne dit pas que ce congé paternité, dans son intégralité, il doit être plus long, et c'est vraiment un rôle que doit prendre le père que de gérer son enfant à la naissance, bah, on a toujours l'impression que c'est accessoire, que c'est facultatif, et qu'on va prendre quelques jours peut-être pour venir aider la nouvelle maman, mais qu'après, on va retourner au travail. Et en fait, quelque chose qui pourrait faciliter la vie des pères qui ont envie de s'investir là-dessus, c'est justement que ça soit obligatoire pour qu'il n'y ait pas cette question, notamment quand on est travailleur précaire, de vouloir prendre ce congé et de ne pas être en mesure de le prendre. Je pense que ça peut être un ressort. Et puis après, il y a ce ressort de ça reste le rôle de la maman et moi, je vais être là un petit peu pour faire quelques gazouillis et puis repartir au travail assez vite parce que un enfant qui crie et qui fait caca, c'est un peu flippant, quoi.
Mais donc, dès le départ, il y a une inégalité institutionnelle au premier jour de la vie du gamin. Et évidemment, cette inégalité, elle va être de plus en plus forte parce que plus elle démarre tôt, plus elle va grandir.
Je vais vous montrer que c'est très pernicieux parce qu'en réalité, les hommes vont donc retourner travailler beaucoup plus tôt, voire retourner travailler tout court là où les femmes vont pas le faire. Et les femmes vont prendre, les mères, l'habitude de tout gérer, en réalité, sous couvert qu'elles, elles ramènent pas l'argent à la maison, en gros, à ce moment-là. Et donc, elles vont s'occuper de l'enfant, faire les tâches domestiques, assumer vraiment une grande part des choses. Et quand elles vont retourner travailler, elles vont garder une grande partie de ces tâches-là.
De leur savoir-faire du magistère. Oui, oui. Ouais.
Et les hommes n'auront pas forcément l'impression de rien faire, parce qu'ils font toujours des choses, ils font pas rien pour beaucoup d'entre eux. Mais c'est pas du tout à la hauteur de ce que font les femmes. Et ce côté professionnel est déterminant dans la suite que ça va donner. Vous donner une autre statistique, parce que c'est pas forcément que de prendre son congé maternité, c'est aussi d'aménager son emploi du temps plus tard en tant que femme pour pouvoir s'occuper de son enfant, aller le chercher à l'école, s'occuper de lui quand il est malade, l'amener à des activités. Et vous montrez les chiffres de l'INSEE en 2022. Les femmes, après l'arrivée d'un enfant, ont des changements professionnels 10 fois plus importants que les hommes. Ça, c'est pas que le congé maternité.
Non, puis il y a la question de la rémunération aussi. C'est que statistiquement, les femmes sont perdantes, en fait, à l'arrivée d'un enfant. C'est-à-dire que leur rémunération progresse moins vite, tandis que celle des hommes continue à progresser sur la même courbe, quoi.
Elles font plus de temps partiel, elles stagnent plus dans leur carrière. Enfin, elles sont vraiment les premières victimes de ça au bureau.
Il n'y a pas beaucoup de batailles pour un congé paternité aujourd'hui qui soit allongé, pour que les hommes puissent assumer plus de responsabilités. Comment vous expliquez ça? Est-ce que les hommes ne veulent pas, en fait, s'occuper de leurs enfants? Pourquoi ils ne se battent pas pour leurs droits qui seraient quand même de pouvoir s'occuper de leur enfant, qui est aussi une grande joie?
Je pense qu'il y en a plein qui sont persuadés qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. C'est-à-dire, c'est plus confortable de pas avoir à s'occuper des gamins au début, etc., de prendre en main tout ça. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ça peut aussi être beaucoup plus agréable et beaucoup plus doux pour eux, y compris pour eux. Et puis ensuite, c'est pas un combat qui est porté. Moi, j'ai toujours été très étonné de voir que les partis de gauche ont jamais porté cette proposition jusqu'à très récemment. C'est quelque chose qui était absent des programmes. Donc, je pense que ça fait pas partie de notre culture française, politique au sens large du terme, de porter ces combats-là.
Puis ça vient de bouger. En 2021, on est passé de 14 à 28 jours. Donc, j'imagine qu'un certain nombre de mecs se disent que c'est déjà pas mal. Mais nous, ce qu'on a vu dans la BD, on va sûrement en parler plus tard, mais c'est que peut-être le caractère obligatoire, ou en tout cas une durée plus longue, et aussi le fait de passer un moment seul avec son enfant, pour un parent, bah, c'est le meilleur moment pour créer du lien, créer de la compétence et devenir un parent à part entière. Donc c'est ça qui changerait les choses. Et avec 28 jours, il y a peu de chances que ça arrive. On se retrouve à les prendre dans la foulée de la naissance de l'enfant, ou alors souvent en complément des vacances d'été ou de je sais pas quand, comme quelque chose qui allonge un peu la durée, mais on n'est pas à temps plein avec l'enfant tout seul, quoi.
En fait, ton implication en tant que néo-père est pas du tout la même si tu sais que dans 2 ou 3 mois, tu vas te retrouver seul avec le gamin. C'est-à-dire que ton écoute dès la maternité, quand on commence à te donner des conseils sur donner un bain, changer un gamin, elle est plus du tout la même si tu sais que tu vas te retrouver seul.
Et alors, on l'a dit, ça commence avec le congé paternité, ça continue après où c'est les femmes, pour des raisons financières, qui vont aménager leur emploi du temps, qui vont moins travailler. Vous, vous êtes allé justement interroger ce monde du travail en disant, mais comment c'est possible que moi, quand je parte une fois tous les de temps en temps pour dire j'amène ma fille au kung-fu, tout le monde est là, ah c'est super, bravo, mais en réalité, je ne le fais pas. Est-ce que c'est parce que les hommes sont pénalisés s'ils le font, alors qu'on a quand même l'impression qu'ils les valorisent, ou est-ce que c'est parce que les femmes veulent plus le faire? Comment ça se fait que le monde du travail ne
et
permet
peut bouger.
Pas ça? Vous êtes allé interroger l'ancienne présidente du MEDEF, Laurence Parisot, et elle, elle vous dit « Mais si, si, ça a changé, les pères prennent du temps pour leurs enfants, d'ailleurs on les applaudit pour ça, on les encourage, il n'y a pas de sexisme. »
La discussion avec Laurence Parisot était très, très intéressante parce qu'on lui a demandé à la fin « Mais concrètement, est-ce que vous avez eu dans votre carrière des personnes qui sont venues vous demander que la manière dont le travail est organisé soit modifiée pour que les parents aient de la place ?» Elle nous a dit « Oui, 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 c'est arrivé. » On lui dit « De mère ?»« Oui, oui, oui. Et de père ?» Non, jamais. Donc c'était la preuve que dans le monde du travail, dans le monde elle est maintenant patronne d'une banque française, elle était dans un institut de sondage avant. Dans ce monde-là, bah, les pères ne s'investissent pas, y compris au sein de l'entreprise, pour demander plus de place pour leur parentalité. Et c'est vrai que les quelques fois où ils vont aller chercher l'enfant, où ils vont avoir ce rôle paternel, ils le déclarent dans l'entreprise, bah, de suite, c'est une aide-honneur, alors que la mère, elle subit la double journée. Elle subit la journée où elle a envie de s'investir professionnellement, mais elle doit aussi, derrière, en toile de fond, s'investir dans sa famille. Et cette notion de charge mentale, elle date des années 80. C'est une sociologue qui s'appelle Monique Eco qui l'a théorisée. Elle parlait déjà de ça. Elle parlait des ouvrières qui allaient au travail et qui, en même temps qu'elles étaient au travail, avaient encore la maison, la famille, toutes les contraintes qui pèsent là-dessus dans leur tête toute la journée.
Mais je pense que l'entreprise a bougé beaucoup moins vite que le reste de la société. C'est-à-dire que les pères, même s'ils n'ont pas fait tout le chemin, et loin de là, ont quand même beaucoup bougé. La société a beaucoup bougé. Sur ces sujets-là, l'entreprise, très peu.
Vous dites que ça a beaucoup bougé, mais on a quand même des chiffres de 2024 que vous citez dans le livre où vous dites que 42% des hommes et 34% des femmes trouvent que c'est normal qu'une femme s'arrête de travailler après avoir eu un enfant et que ce soit la femme qui le fasse. Donc on a l'impression d'une société un peu à deux vitesses où il y a une partie de la population qui clairement est en train de devenir plus féministe, être sensible à ces inégalités, et de l'autre, une partie qui est quand même très réfractaire à ces changements.
Oui, parce qu'il y a une société qui dit quand même tout le temps aux femmes que leur rôle, ça va être d'être mère à un moment, et une fois qu'elles seront mères, ça va être de s'occuper en premier, de prendre le lead sur l'enfant et de rester là. Donc, quelque part, les chiffres, ils sont pas très étonnants. Ce qui serait intéressant, c'est de se dire que les pères aussi, qu'il y ait cette espèce d'injonction à dire, quand vous avez un enfant, c'est aussi votre rôle de vous en occuper. Si vous êtes en couple hétéro, vous devez être là parce que vous n'êtes pas un assistant, vous êtes parent à part entière, et donc vous n'êtes pas là pour décharger maman, vous êtes là pour jouer votre rôle. C'est gratifiant pour vous et c'est aussi votre rôle.
En fait, aujourd'hui, dans une boîte, si tu as un père qui est là de 8h du matin jusqu'à 20h, même si ce père a un gamin de 5 ans, ça va choquer personne aujourd'hui en France. Alors que ça devrait, parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part.
Il y a quelqu'un d'autre, quoi. Indispensable.
Et vous parlez également des conséquences néfastes que ça peut avoir, cette inégale répartition des tâches, les tensions que ça peut créer au sein du couple, parce que les femmes, certes, font beaucoup, mais elles sont pour certaines complètement à bout, parce qu'elles ont cette double journée. Elles ne sont pas seulement à la maison, beaucoup d'entre elles travaillent. Donc elles ont double journée, justement. Et vous parlez du rôle que ça peut avoir sur l'existence des violences masculines au sein du foyer, donc qui sont quand même à pas oublier, on le répète souvent à Blast, mais un féminicide tous les 3 jours. Et vous rappelez que 75% des passages à l'acte violent dans le couple ont lieu suite à une question relative à l'enfant et justement à la manière dont on peut s'en occuper. Et alors vous êtes rendu dans un groupe de parole d'hommes qui racontent pourquoi et comment ils ont violenté leur femme à un moment, et comment ils ont été des hommes violents. Et vous vous rendez compte que ça parle quand même beaucoup de violences liées aux tâches domestiques.
Ouais, ça nous tenait beaucoup à cœur de parler de ça, parce que l'idée, c'était de dire que dans ce continuum du père parfait de 2024 qu'on nous décrit et qui n'est pas vraiment advenu, bah, il y a toute cette question de la violence qui est énorme. On l'a vu dans cet atelier, on a eu des pères qui étaient là et qui nous racontaient vraiment des situations assez basiques de la vie quotidienne d'un un foyer où ils ont pu dégoupiller et avoir des actes de violence graves. Et donc,
mais pourquoi ? Parce qu'ils comprennent pas.
Parce que y a des. Après, c'est des ressorts que moi j'ai quand même du mal à expliquer, mais qui sont dans la masculinité, dans le patriarcat, voilà, avec un recours à la violence évidemment beaucoup plus fréquent. J'ai beaucoup aimé lire ça aussi dans le livre de Mathieu Palin, qui raconte un peu les mêmes choses avec des témoignages d'hommes, de pères, qui racontent vraiment que la vie domestique peut en conduire certains à des actes de violence. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, devait être mis en relief dans le livre, parce que voilà, l'arnaque du nouveau père, c'est aussi l'arnaque de. C'est ce que dit aussi Rose Lamy dans le livre En bon père de famille. C'est qu'il y a quelque chose à déconstruire de l'image du père contemporain qui serait formidable, mais qui se retrouve parfois, trop souvent, à être un père violent, quoi.
Mais parce qu'il ne comprend pas, en fait, qu'on lui demande de faire des choses dans la maison, il se sent acculé. Les témoignages que vous commencez à citer dans le livre sont quand même, donnent cette impression.
Moi, je pense qu'il y a, peut-être pas des chemins qui se séparent, mais en tout cas, les femmes, depuis longtemps, et notamment depuis MeToo, ont des exigences, des attentes plus élevées et bien légitimes, parce qu'on leur promet une société qui est égalitaire ou plus égalitaire, et elles voient au quotidien souvent que ce n'est pas le cas. Et donc, je pense qu'elles demandent plus de choses, et elles ont bien raison, et c'est pour ça que ce livre nous a aussi conduit à notre remise en cause. Elles demandent plus de choses, et ça peut amener à des situations de tension s'il y a en face des personnes qui ne sont pas prêtes qui ne font pas d'efforts. Voilà.
Donc, c'est pour ça que c'est intéressant quand même, c'est nécessaire, d'avoir des hommes qui se remettent en question, qui s'informent sur ces choses-là.
Ah, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur il n'y a pas beaucoup d'hommes qui demandent un congé paternité plus long. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont dans la rue sur la ferme Azan. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, on ne les entend pas beaucoup, les hommes, à chaque fois qu'il y a un MeToo qui sort pour dire que. Qu'est-ce qu'on fait pour remettre en cause tout ça, pour que ça s'arrête ? C'est la première des choses, c'est cette remise en cause, c'est sûr.
Parce que les conséquences, si on va très concrètement, de tout ce que vous décrivez, c'est une souffrance avant tout féminine. C'est les femmes qui paient le prix de tout ça. Quel est l'intérêt des hommes, aujourd'hui, à changer ?
Ce qu'on a voulu raconter dans la BD, c'est aussi qu'il y a un intérêt pour les hommes à changer, c'est-à-dire que créer des liens plus forts avec ses enfants, être... pleinement investi dans la vie de sa maison, ça ne peut être que bénéfique dans sa relation, je pense, et puis dans sa relation avec de couple.
Vous l'avez vécu, par exemple, ça ?
Ah oui, bien sûr, c'est sûr, c'est absolument certain.
Je pense que c'est mieux d'avoir forcément un foyer où le dialogue est ouvert, où l'autre ne se sent pas devoir tout gérer sans pouvoir en parler. C'est évident que nous, en faisant ce travail, on a voulu questionner toutes les personnes qui sont autour de nous, mais aussi se questionner sur notre rapport à ça, sur la possibilité qu'on a de prendre en compte les remarques de l'autre sur « tu fais pas ça bien » ou « t'es pas au niveau là-dessus ». Donc oui.
En fait, si on va vers un monde plus égalitaire, les hommes vont perdre des privilèges, c'est une évidence, puisque c'est toute l'histoire de la fin du patriarcat. Les hommes vont perdre des privilèges, donc c'est jamais agréable de perdre des privilèges. Mais de l'autre côté, moi je suis absolument persuadé que c'est quand même plus agréable de vivre dans un couple où personne n'est lésé que de vivre dans un couple où il y a quelqu'un qui est lésé. Enfin, cette société qui va être plus douce, elle va forcément être favorable, plus favorable aux hommes. Enfin, ils vont forcément y trouver leur intérêt. Mais c'est forcément dans un deuxième temps.
Puis c'est un peu le cliché de l'homme qui, au soir de sa vie, sur son lit de mort, se dit « Oh, j'aurais dû m'occuper un peu plus de mes enfants et de ma famille » et qui le regrette. Bon, peut-être que ça peut permettre d'éviter que cet épisode-là arrive.
Vous parlez clairement des changements institutionnels à opérer. Ça peut passer par le congé paternité, par des réformes dans le monde du travail, pour que les parents, de manière égalitaire, aient la possibilité de s'occuper de leurs enfants. Mais il y a déjà des choses que les hommes peuvent faire, ceux qui nous regardent, dès maintenant, en fait. Et vous êtes allé à des ateliers. Alors ça, je ne savais pas du tout que ça existait. Il y a des ateliers, avant de devenir père, qui existent, qui peuvent être gratuits ou qui peuvent être payants, sur tout ce qu'il y a à savoir, en fait, pour être un bon père. En quoi ça consiste déjà ? Est-ce que pour vous, c'est une des potentielles solutions ?
Alors, on a fait donc atelier gratuit, atelier payant. Atelier gratuit, c'est en hôpital, c'est un cours, c'est comment dire, un groupe de parole pour jeunes pères. Ça durait une heure ou deux, et en fait, c'était juste de la discussion. Et c'était assez lacunaire, mais c'est l'hôpital public qui le proposait, qui me l'a proposé quand je suis devenu père.
Mais c'est mieux que rien.
C'est mieux que rien, mais on peut parler, mais on n'y apprend pas grand-chose de ce que c'est que ça va être concrètement d'être père. Et donc, il y a aussi des cours payants qui sont organisés par une entreprise privée. Et j'imagine que on en a vu un. Il y en a d'autres qui existent en France.
C'est 150 euros, c'est
150
ça
euros la journée, et tout le monde ne peut pas se le payer. Moi, à la fin de ce cours, je me suis dit que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, parce que c'est utile pour les pères et même pour plein de mères qui n'y connaissent rien avant de devenir mère. Dans ce cours, on apprenait les gestes basiques, les besoins d'un enfant, mais il y avait aussi toute une réflexion sur politique, sur ce que ça va être que d'être parent. Et le cours disait aux futurs pères: ne vous comportez pas comme un assistant, comportez-vous comme un parent à part entière. Vous devez tout savoir, autant que la mère, comme ça vous êtes une personne ressource, c'est un peu managérial, mais vous êtes une personne ressource, vous savez ce que c'est, ce qui est nécessaire pour votre enfant, et vous n'êtes pas tout le temps en train d'appeler la maman pour lui demander où sont les couches ou comment mettre le Doliprane. Voilà, c'est des choses comme ça, et c'est vraiment essentiel que ça puisse, se généraliser et que les mecs se documentent là-dessus, parce que avant d'être père, ils disent souvent qu'ils sont en galère, qu'ils y savent rien, mais il y a quand même des outils qui sont disponibles au-delà de ces cours payants.
En fait, il y a un énorme problème de transmission pour les hommes de ce savoir-faire, parce que, enfin, moi, de 0 à 30 ans avant d'être père, je pense que c'est jamais arrivé que quelqu'un de ma famille, un aïeul, se tourne vers moi en disant « Regarde Stéphane, comment on change une couche ou comment on s'occupe d'un nourrisson, quoi. » Et donc, tu arrives, tu deviens père, tu as une carence de savoir-faire, il y a un problème de transmission. Comment on fait ? Alors, soit on change toute la société, soit on commence par ces ateliers où tu peux au moins rattraper un peu de ton retard.
Et à la fin, on a quand même des changements qui ont opéré pour être sur une note un peu positive. Vous êtes allé rencontrer vos propres pères. Donc, vous avez chacun votre séquence où vous demandez à votre père quel père il a été, comment il concevait son rôle de père. Et dans la définition qu'il vous donne du rôle de père, on voit bien que les choses ont changé. Quelle est aujourd'hui votre définition du rôle de père ? Qu'est-ce qu'être un père, en fait, aujourd'hui, en 2024 ?
Moi, j'ai une image très, très bête et méchante. C'est d'être un parent. J'ai pas envie d'avoir un rôle qui serait genré, qui serait différent de celui d'une mère. J'ai envie d'être investi, de faire toutes les tâches qu'il y a à faire et de pas me dire celle-là, je l'ai fait parce que moi, je suis un homme et elle, c'est une femme. Et voilà, s'il y en a qui me plaisent plus et à elle, pareil, parce que c'est comme ça, pourquoi pas. Mais je veux que ça soit qu'on puisse pas y retrouver un germe de genre derrière. C'est ça. Ma définition. Et du coup, c'est être quelqu'un d'investi et d'être et quelqu'un qui sert à quelque chose et pas seulement à ramener l'argent et à mettre une baffe une fois par mois, quoi.
Je pense qu'on évolue dans une société patriarcale, donc on est forcément assigné à certaines tâches et à certains réflexes. Donc, être un bon père aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui d'abord réfléchit justement. Moi, j'ai eu un peu mon épiphanie avec ce bouquin sur les tâches les plus valorisées socialement. On est plutôt enclin à les faire. Et dès qu'elles le sont moins, on les fait moins. Je pense que c'est pas mal d'avoir une alerte aujourd'hui, d'avoir un petit clignotant dans la tête, de se dire, attends, je suis en train de le faire ça. Mais est-ce que c'est pas une tâche valorisée socialement? Et le rendez-vous un peu relou, l'administratif, est-ce que je suis moins enclin à le faire?
Donc, c'est comment contrer les rôles auxquels on est assigné et tout nous pousse à faire ça, puisque souvent, on va avoir tendance à s'adresser... L'école va appeler plus, par exemple, la maman.
Exactement.
Quand il y a un problème. Donc, il faut réussir à contrer ces rôles assignés. Vous, vous écrivez... Je me permets de rebondir, Guillaume Tonin, parce qu'à un moment, il y a votre femme dans la bande dessinée qui vous dit « Oui, mais bon, toi, tu tiens à quand même bien montrer ce que tu fais. Donc, c'est aussi...
C'est ce que la BD a montré aussi. C'est que dans l'introspection qu'on a faite, elle a dit, en gros, oui, c'est vrai que c'est égalitaire entre nous. Par contre, tu la ramènes un peu trop souvent sur faut qu'on fasse 50-50 maintenant. Et puis, sur dire, j'ai fait ci quand pendant une demi-journée, elle a pas fait des choses parce que, je sais pas, elle bossait ou des choses comme ça. Donc, elle me dit, ça, faut que t'arrêtes. Donc, ça, c'est le travail de long terme qui montre que on n'est jamais, c'est toujours un chemin que de parvenir à quelque chose de juste et égalitaire.
Et alors, un exemple de pays où il y a plein de choses qui ont été mises en place, qui nous est beaucoup donné, c'est l'exemple de la Suède, qui a été un pays qui vous a beaucoup intéressé. Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on parle de société égalitaire, mais d'ailleurs dans la lutte contre les violences sexuelles, dans énormément de domaines, on pense à la Suède, qui est souvent présentée un peu comme le Graal, de l'égalité femmes-hommes. Vous, vous y êtes allé, vous avez rencontré des pères. Je ne sais pas si vous y êtes vraiment pris comme ça, d'aller dans un parc.
Ah, complètement, comme ça. Vraiment, exactement.
Vous êtes allé voir au hasard des pères dans un parc pour enfants en disant bonjour, vous êtes père.
Et on a eu ce choc graphique immédiat de voir beaucoup d'hommes avec des enfants et de voir des hommes en groupe, mais des hommes de 30, 35 ans. Hein. En plus, ils faisaient hyper beau, ils étaient en short, en t-shirt, ils étaient vraiment à la cool. Il y avait un mec, je me souviens, qu'on a interrogé, il faisait ses pompes tout en gardant son gamin. Et en fait, la plupart de ces mecs, c'était des mecs qui étaient justement dans ce stade où le gamin a plusieurs mois, et eux, ils sont tout seuls à gérer l'enfant pendant que la femme est retournée au travail. Et donc, c'était d'abord un choc graphique de voir autant d'hommes, en pleine semaine, à 15 ou 16 heures dans l'après-midi, s'occuper de gamins. Si vous faites la même expérience dans un parc à 16 heures à Paris, vous allez voir essentiellement des femmes racisées qui s'occupent des gamins.
En plus, il y a une sous-couche sociale là sur ce. C'est-à-dire que dans les couples où il y a une égalité, c'est souvent parce que c'est délégué aussi à des personnes racisées, plus pauvres, qui vont s'occuper des enfants. Mais donc au final, c'est ni les hommes ni les femmes qui vont le faire. Et si on sort de Paris. Ça va beaucoup être des femmes.
Un autre sort. Ouais, bien sûr. Mais là, alors là, après, en Suède, tout est organisé justement pour que de 0 à 1 an, il n'y ait pas de système de crèche, donc il n'y a pas d'argent investi là-dessus. Donc, bon, tout ça est très complexe, mais le premier choc, c'était ça. Le deuxième choc, c'était de discuter avec eux et de se rendre compte dans leurs mots, leur façon d'appréhender cette période. Il y avait une espèce de douceur qui se dégageait, de zénitude qui, moi, m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans le registre de l'effort ou de quelque chose qui cogne et qui va à l'encontre de ce qu'il voudrait faire, et de quelque chose de beaucoup plus zen et beaucoup plus doux. Et ça, moi, cette douceur m'a fait très envie.
Mais vous rappelez que c'est quand même pas à idéaliser et qu'il y a encore des inégalités qui subsistent dans ce pays.
Bah, tout ce qu'on a vu, c'est des gens qui sont à la fois fiers de ce que leur pays a réalisé et en même temps, ils se rendent compte que l'objectif n'est pas atteint. C'est-à-dire que on a la ministre de l'égalité homme-femme, Paulina Brandberg, qui nous dit en 2024, ça fera 50 ans qu'il y a ce congé qui a été modifié pour laisser plus de place au second parent, au père.
Donc, il faut quand même rappeler ce qu'est le congé paternité en Suède.
Alors, c'est 16 mois à partager à part égale avec de mémoire 3 mois
qui peuvent être...
Voilà, qui peuvent être cédés à l'un ou à l'autre, qui sont voilà. Et en moyenne, structurellement, en moyenne, les femmes prennent 8 mois, les hommes prennent 3 mois. 3 mois, c'est beaucoup par rapport à la France, et c'est surtout 3 mois où ils sont souvent seuls avec l'enfant. Donc c'est un gap gigantesque. Mais bon, 8 mois par rapport à 3 mois, on voit que
on n'y est pas.
On n'y est pas. Et donc, la ministre disait, mais on ne va pas le célébrer, puisqu'on n'est pas encore au rendez-vous. On n'a pas encore atteint l'égalité, et il y a encore énormément de choses à changer. On a été ensuite dans une école, assister à des cours pour les jeunes, les collégiens, où ils apprennent à faire, à manger, à nettoyer leur cuisine, à tout ce qui est des tâches domestiques. C'était fascinant à voir des collégiens avec des oreillettes en train de cuisiner des lasagnes et puis de nettoyer, de faire la vaisselle. Enfin, je trouve que c'était un cours très utile parce qu'il y a des jeunes garçons qui font ça. Mais dans ce cours, il y avait aussi leur professeur qui leur disait « Vous êtes dans une société qui veut être égalitaire, mais elle n'y est pas encore. Il y a encore beaucoup trop de violences faites aux femmes, il y a encore beaucoup trop d'inégalités et il y a encore beaucoup de chemin à faire. » Donc voilà, ils sont quand même lucides sur le fait qu'ils ont un modèle qui peut être valorisé ailleurs, mais qui n'est pas encore celui...
Modèle idéal.
Voilà.
Mais ils sont quand même vraiment devant nous.
Ils sont vraiment devant nous, et c'est bien pour ça que c'est un modèle sain, parce que tout le monde, et même la ministre qu'on a rencontrée, c'est une ministre de droite qui appartient à un gouvernement très conservateur, et même elle est dans une réflexion de comment améliorer une situation qui est déjà bien meilleure que la nôtre. Et donc ça montre bien que cette espèce de gymnastique est présente à tous les étages, et que ça montre que c'est un modèle qui est sain. Et donc moi, j'ai vraiment eu l'impression quand même concrètement d'aller dans le futur et de me balancer dans un monde avec 30 ans d'avance.
Parce qu'il y a un consensus sociétal là-dessus, en Suède, sur le fait qu'on doit à un moment, à 17h, on part du boulot et on va s'occuper de ses enfants ou un peu avant. Et si on ne le fait pas, c'est vraiment une autre norme qu'en France, si on ne le fait pas, c'est qu'on est quelqu'un qui travaille mal. Si on n'est pas capable de partir tôt du travail pour aller vivre sa vie autrement qu'au travail, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une norme qui est complètement différente, qui peut avoir aussi des implications fortes pour chacun.
Ouais, et qui fait un peu hurler nos meufs par ailleurs, mais
oui, c'est sûr, mais ça a un mérite quand même, c'est de laisser la place à son rôle de parent, quoi.
Et alors, vous, vous aviez déjà écrit cette première bande dessinée sur la contraception masculine. C'était vraiment le sujet masculin. Et moi, c'est autour de moi, en tout cas, une bande dessinée que j'ai vue beaucoup entre les mains de femmes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté pour la première et que vous constatez pour la deuxième?
Oui, pour la première, très fortement. On a lancé un compte Instagram et donc ça permet d'avoir des stats genrés. On est entre 85 et 90% de femmes. Les retours...
C'est-à-dire un truc qui concerne les hommes, la contraception masculine, il y a 90% avec des, de femmes
avec,
qui suivent.
Avec des mecs torse nu en couve, avec, avec des slips, enfin en slip. Là, il y a écrit « père » dans le titre. Avec
un père dessus.
Avec un père dessus. Donc voilà, je pense qu'on va mettre une grosse bagnole de luxe et puis je sais pas quoi pour les faire venir.
Mais c'est un vrai sujet. Non, moi, je suis contente de vous recevoir, vous, parce que vous parlez de ces sujets-là. Mais en réalité, même dans le traitement journalistique, il y a très peu d'hommes qui parlent de ces sujets qui concernent les hommes et les femmes. Et on est toujours, on a la sensation d'être en minorité à parler d'être une majorité de femmes et que les hommes sont en minorité pour en parler et s'y intéresser.
On nous disait que le fait d'être des mecs qui parlent de ces sujets-là faisait que des mecs allaient s'y intéresser. On voit que le principal vecteur de transmission de ce qu'on fait, c'est des femmes qui le répandent autour d'elles à des hommes pour leur offrir, les éduquer, les avertir sur des choses. Et c'est un peu décevant. Après, il y a des mecs qui viennent vers nous, qui nous parlent de notre travail, qui se posent des vraies questions autour. Et ça, c'est super, mais ça reste un peu minoritaire, quoi.
Et on a fait beaucoup de dédicaces et beaucoup de rencontres en librairie partout en France. Et il y a des fois, on s'est retrouvé avec 100 personnes dans une salle. Il y avait 90%. De meuf.
Donc, qu'est-ce que vous voulez dire aux hommes qui nous regardent là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Bougez-vous le cul, quoi. Je sais pas, it's time to, non?
Ouais, c'est bien résumé. Non, mais après, c'est des choses basiques, quoi. C'est ça. Se documenter, ça peut être bien. Discuter avec sa copine si on est hétéro, ça peut être pas mal de voir comment elle voit les choses de ce point de vue. Et puis surtout, si on a des enfants, bah, c'est cool aussi de s'en occuper et de prendre du temps pour ça. Il y a de plus en plus de mecs qui le font, mais il n'est jamais trop tard pour se poser toutes les questions là-dessus.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Blast.
Merci.
C'est la fin de cette émission. Je rappelle que votre livre « L'arnaque des nouveaux pères » est disponible aux éditions Glénat. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie d'avoir des discussions sur le sujet avec votre entourage. Si cette émission vous a parlé, n'hésitez pas à la partager ou à la commenter. C'est important parce qu'en ce moment, l'algorithme de YouTube ne nous aime pas beaucoup. De plus, si vous voulez soutenir notre travail, c'est vraiment le moment de faire un don avant la fin de l'année ou de vous abonner sur blast-info.fr. Je vous rappelle que cette émission est disponible en version podcast sur toutes les plateformes de streaming. Et moi, je vous dis à très bientôt.